BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, il est 20h pile sur BFM Business. Nous allons passer encore une fois cette soirée ensemble et je suis ravi de vous retrouver, vous le savez, du lundi au jeudi, 20h, 21h30. Radio, télé, replay, podcast, Tech & Co, la quotidienne. Avec ce soir, au sommaire de Tech & Co, eh bien on va revenir sur les difficultés que rencontre en ce moment Tesla. Voilà, premier trimestre qui n'a pas été terrible. Est-ce que c'est une vraie sortie de route pour Tesla? On va en parler dans quelques instants avec nos débriefeurs. On s'intéressera aussi à cette news étonnante. L'IRM la plus puissante, elle est française. Elle a été développée en partie par le CEA. Et puis Schneider Electric qui optimise l'énergie par la tech, bien évidemment, et l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Schneider Electric organise la semaine prochaine un événement dédié à tout cela. On en parlera avec son président qui sera avec nous sur le plateau de Tech & Co. Encore une fois, un grand merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et on débriefe l'actu tech chaque soir, vous le savez. 20h, 21h avec nos experts qui sont là. Clément David est avec nous. Salut Clément.
Salut.
Président de Paddock et on va le dire, un spécialiste du cloud.
J'espère.
T'as vu, aujourd'hui, je suis plutôt light.
C'est vrai. Et joyeuse Pâques.
C'est vrai, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. En effet. À tes côtés, c'est Yves Maître qui est là. Salut Yves.
Bonsoir.
Operating partner Jol Capital et consultant, ancien PDG de HTC et Frédéric Simotel.
Bonsoir. Salut Fred. Bonsoir à tous et François.
Qui est en train de vider l'open space de tous les chocolats qui traînent.
Non.
Pas tout à fait.
Non, pas tout à fait.
Mais bon, tu te rattrapes puisque tu...
Je reprends le sucre vendredi.
C'est ça. Et puis se prépare pour le marathon la semaine prochaine. Donc, tout va bien. Il élimine. L'actualité, elle est chargée quand même. Vous l'avez vu en ce début de semaine avec Microsoft et OpenAI qui travaillent sur un projet de data center à plus de 100 milliards de dollars. Amazon, excusez-nous, on est vraiment dans les milliards là. Amazon qui va investir 150 milliards de dollars dans ses data centers sur 15 ans. Cette IRM aussi, la plus puissante au monde, elle est française. Elle est conçue par le CEA et elle permet d'avoir une imagerie du cerveau incroyable. On arrive en fait à zoomer, à voir des détails des détails à quelques milliers de neurones, ce qui est complètement inédit et qui, évidemment, vous l'imaginez, va pouvoir sans doute accélérer la manière dont on va pouvoir soigner certains patients.
Les diagnostics. Et puis
les diagnostics, parce qu'on parle du cerveau, mais évidemment, d'autres organes pourront être comme ça, scannés par cette technologie. Mais pour débuter, je le disais, la mauvaise passe de Tesla. Le constructeur californien a dévoilé aujourd'hui ses chiffres de vente pour le premier trimestre. Les livraisons ont chuté de presque 9% en quelques semaines. Et Tesla subit de plein fouet la concurrence chinoise et la guerre des prix. Justine Vassogne nous raconte tout ça et on revient juste après.
Un cauchemar, c'est ainsi que le fonds Wedbush qualifie le premier trimestre de Tesla. Tous les analystes ont revu leurs prévisions à la baisse. Certains estiment que Tesla pourrait livrer jusqu'à 50 000 voitures de moins qu'attendu et vendre moins de véhicules qu'au premier trimestre de l'année dernière. Un recul qui serait du jamais vu depuis le Covid. Deux des usines du constructeur en Californie et à Berlin connaissent des perturbations, mais le principal problème est ailleurs. Tesla souffre sur ses deux principaux marchés, les États-Unis et surtout la Chine. Malgré des baisses de prix récurrentes, le constructeur ne cesse d'y perdre du terrain, malmené notamment par BYD. Elon Musk est conscient du danger. Il a récemment estimé que les constructeurs chinois étaient les plus compétitifs du monde. Il faudra attendre 2025, a-t-il prévenu, et l'arrivée d'une voiture à 25 000 euros pour une nouvelle vague de croissance. Pas certain que les investisseurs aient cette patience. Depuis le début de l'année, Tesla a perdu 30% en bourse. C'est la pire performance du S&P 500.
Alors voilà, est-ce que c'est la fin du règne de Tesla? En tous les cas, ces dernières semaines ont été compliquées. Les livraisons donc ont baissé de 42% en France en mars sur un an. Ça, c'est sur le marché automobile global des véhicules électriques. Bien sûr, on le voit, Tesla qui a rencontré pas mal de problèmes, notamment avec son usine à Berlin, en tout cas dans la région berlinoise, qui a été victime d'activistes qui ont vandalisé en fait les infrastructures, ce qui fait que l'usine a été à l'arrêt pendant plusieurs jours c'est compliqué. Est-ce que c'est un passage à vide, Yves, à ton avis, ou est-ce que entre l'arrivée des Chinois qui font des voitures de plus en plus intéressantes et de moins en moins chères, voilà, on va dire le marché est en train de changer.
Non, je pense que c'est pas qu'un passage à vide. Alors il y a des raisons objectives. Hein. Tu citais Berlin. Il y a aussi l'histoire de la mer Rouge qui oblige à faire des détours en bateau et donc ça crée des retards. Cela étant, je pense que ce qui est en train de se passer sur le marché de l'automobile était prévu, mais va beaucoup plus vite que ça. Parce que si on met les non-ventes, on va dire, ou le manque de ventes de Tesla, il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs. Il y a Xiaomi qui a annoncé une voiture qui est considérée un petit peu comme la nouvelle Porsche chinoise au tiers du prix. Il y a BYD qui annonce la semaine dernière une voiture qui dévoile une voiture à 10 000 euros, une voiture électrique à 10 000 euros, alors que nous, en France, on est à 20 000. Il y a Huawei qui est en train de cartonner.
20 000 était gentil, hein, 20 000. Hein. 20 000,
c'est l'objectif.
Le volant est en option, hein.
C'est pas très gentil de dire ça.
C'est plutôt 25, hein. Tu prends même la nouvelle R5.
Non, mais il y a un objectif, qu'importe. Il y a un objectif à 20 000 et il y a un travail incroyable pour passer de quelque chose, 20, 25, 20, 26, à 20 000 et à un autre endroit sur cette planète, ils sont à 10 000. Ouais. Donc, il y a tout d'un coup quelque chose qui était prévu, qui était anticipé, mais qui arrive comme une espèce de tsunami, comme une vague. Alors, les gens ajustent les prix, mais ça suffit plus. Hein. On voit Tesla en Chine a dû baisser ses prix, mais ça suffit plus. Et oui, il y a un phénomène qui est en train de se passer. Il y a un changement énorme qui est en train de se passer et qui arrive aussi en Europe, hein, avec les annonces qui disent qu'en 2024, si j'ai bien lu les annonces, 25% des voitures seraient construites en Chine. Ça ne veut pas dire que ce sont des voitures chinoises, hein, puisque
les Volvo, Dacia,
DS sont construites en Chine, mais 25% des voitures vendues en Europe, seraient fabriquées en Chine en 2024.
Clément, et après on donnera la parole à Fred, ouais. Bien sûr.
Écoute, nous on a plusieurs clients paddock dans l'automobile français.
C'est compliqué.
Ça va être compliqué. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est un marché, c'est de l'industrie. C'est un marché qui est un marché très tendu, qui est mature, etc. Tu parlais de tsunami, la vague qui a déjà bien commencé, hein, des voitures chinoises en Europe. Parce que il y a des trucs, il y a des idées qu'il faut déconstruire sur la Chine. C'est-à-dire que les gens pensent que la Chine n'a pas une culture de la voiture. C'est pas parce qu'on ne connaît pas les marques chinoises qu'ils en ont pas. C'est-à-dire que Volvo, ça a été déjà racheté en 2010, MG, ça a été racheté en 2005.
Ils ont racheté Jaguar, je crois.
Non, c'est Tata, je crois qu'il y a.
MG.
Et ils font
MG,
des
Volvo, Polestar.
Donc le premier truc, c'est ils ont une vraie culture de la voiture. Et puis nous, on se rend pas compte, il y a 100 villes en Chine qui ont plus d'habitants que l'Irlande. C'est-à-dire, donc t'as quasiment 100 villes qui ont leur propre compagnie de voitures. Donc, le premier truc, ils ont une énorme culture de la voiture.
Ces gens-là ont besoin de se déplacer.
Exactement.
Forcément.
Deuxième truc, ils font des très très bonnes voitures. Ce qui fait paniquer en Europe, quand tu parles aux constructeurs européens, c'est pas le fait que des voitures chinoises arrivent, des trucs pas chers qui arrivent. Tous les marchés se sont fait disrupter par des trucs pas chers qui venaient de Chine. C'est que la qualité de ces voitures est hallucinante. Quand tu prends une marque comme NIO, par exemple, parce qu'on parle de BYD, parce que c'est le mastodonte, oui. NIO, c'est du très haut de gamme. C'est des très très belles voitures. Donc en fait, ils font des voitures qui sont largement aussi bien que les voitures européennes, pour 25% moins. Ça, c'est très compliqué. Mais c'est des bonnes bagnoles. Et le troisième truc, c'est qu'en fait, on se pense qu'ils font comme nous, ils font pas comme nous. Ils ont des avantages technologiques, type les batteries, où ils sont meilleurs que nous. C'est-à-dire que BYD, par exemple, c'est aussi le numéro un mondial des batteries. Ils font ça pour les panneaux solaires, ils font ça pour les smartphones, ils font ça pour... Donc en fait, ils ont
aussi...
Alors
qu'avant, c'était les Japonais qui étaient les numéros un des batteries, et même les Coréens, avec LG.
Et en fait, on en parle souvent du fait qu'on parle moins du Japon dans cette émission, etc. Mais je veux dire, la Chine a des vrais atouts. Et quand on dit qu'il va y avoir une déferlante du marché chinois, c'est pas juste les Chinois vont nous envoyer plein de voitures de merde. C'est les Chinois nous envoient beaucoup, parce qu'en plus, sur un marché intérieur où ils l'ont fait à scale, ils savent en produire beaucoup, beaucoup d'excellentes voitures pas chères. Et pour Tesla, il y avait un peu les constructeurs historiques avec les gens qui étaient fidèles à ces marques-là, les marques nationales, et Tesla tout seul pour le reste du monde. Ben maintenant, c'est Tesla plus BYD et tous les autres Chinois, VS les marques historiques. Pour Tesla, pour répondre à la question, c'est pas le même jeu.
Parce que c'est vrai que Tesla bénéficie d'une aura, Fred, qui est incroyable. C'est un peu le Apple de l'automobile. Hein. C'est cool d'avoir une Tesla. Ils ont encore ça.
Là aussi, on est en train de, par rapport à toutes les étapes là, que l'on vient de, dont on vient de parler, je pense qu'il y en a une autre aussi, c'est que Tesla commence à pas rentrer dans le rang parce que c'est quand même une voiture différente, mais les gens qui sont habitués à un autre style de voiture, maintenant qu'on commence à avoir des BMW, des Audi, des Mercedes plutôt de bonne qualité, qui commencent à avoir de l'autonomie, qui commencent à avoir aussi une interface plutôt pas mal, bien les gens qui sont habitués à Mercedes, à Audi, à BMW, eh bien ils vont retourner chez BMW, Audi et Mercedes parce que là aussi ils aiment bien ces voitures, ils aiment bien le style, enfin voilà, ils ont été élevés
malgré tout, des voitures un peu mieux finies que les Tesla,
un peu mieux finies que les Tesla, et donc là je pense qu'il y a aussi ce côté là et pour moi il faut que Tesla, alors soit ils trouvent leur modèle façon ce que tu dis toujours, le modèle Zoé, hein, le modèle leur Golf, leur 205, voilà leur modèle un peu vache à lait qui va faire tourner et qui rapportera beaucoup d'argent, soit ça risque d'être un peu compliqué parce que la concurrence chinoise, mais la concurrence, moi je dis que la concurrence européenne dans le haut de gamme, hein, quand ils ciblaient le haut de gamme où ils faisaient pas mal de marge, hein, faut le rappeler, ils sont en train de se faire tailler aussi quelques croupières, donc il y a tout ça qui est en train de changer, donc voilà, après ils ont des autres soucis de production, et puis je pense qu'il faut aussi qu'en Europe on commence un peu à fermer, alors ça pourra bénéficier aux Tesla fabriqués en Allemagne, mais à revoir un peu nos droits de douane. Il faudra qu'on revoie un peu aussi, on pousse un peu nos constructeurs français, européens à construire un peu plus, à se lancer plus rapidement dans l'électrique. Mais voilà, je pense que la grandeur de Tesla, de Tesla est peut-être en train de, oui, est passée. Pour moi, elle est passée.
Yves, parce que c'est vrai, la question que je me pose, mais comme tu connais bien le marché chinois, taïwanais, etc., est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas plus facile de fabriquer une voiture qu'il y a 10 ans? On se rend compte que aujourd'hui il y a énormément d'acteurs qui sortent des voitures dont c'était pas le métier, dont au départ leur métier c'est l'électronique. Huawei par exemple, je crois que Samsung a aussi sorti une voiture. On voit que Sony est en train de s'associer à Honda pour sortir une voiture. Est-ce que finalement en Chine les voitures c'est pas un peu comme les smartphones? On peut acheter des modèles un petit peu sur étagère que tu vas un peu customiser à ta manière en rajoutant ton OS, en rajoutant peut-être ta batterie, etc. Mais est-ce que c'est pas plus facile de fabriquer une voiture aujourd'hui qu'il y a peut-être 10 ans?
Non, c'est pas plus facile, mais c'est totalement différent. Il y a quelques années encore, quand on fabriquait une voiture, il y avait beaucoup de pièces mécaniques, donc il y avait une chaîne de valeur avec beaucoup de sous-traitants, c'était absolument très hiérarchisé, très pyramidal, avec toute une structure, des usines énormes, et des temps de cycle, c'est-à-dire entre une voiture et une autre voiture, ça prenait plusieurs années pour faire un modèle, parce qu'il y avait beaucoup de pièces, hein, c'est comme un Lego avec beaucoup de pièces. Bon. Là maintenant, la voiture électrique, il y a beaucoup moins de pièces. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus beaucoup de liquide de refroidissement, plus de liquide de refroidissement.
Il y a plus de carburateur. Enfin, il n'y a plus tout ce qui était complexe en moteur thermique.
Il n'y a plus d'embrayage, il n'y a plus de toutes ces choses-là. Ok, donc la partie mécanique est extrêmement simplifiée. Par contre, il y a toute une partie d'électronique, électronique de puissance et de software qui, elle, est extrêmement compliqué. Mais quand je dis extrêmement compliqué, c'est que faire l'intégration software sur hardware, avec le hardware, sur un smartphone, c'est déjà compliqué. Dans une voiture, c'est encore une autre échelle. Donc là, il y a un travail d'intégration entre la partie de la programmation et la partie du chipset et des composants qui est juste jamais faite. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait à ce niveau-là.
Ce que fait parfaitement Tesla, et ce qui a révolutionné Tesla aussi.
C'est là où vraiment Tesla est fort, et c'est là où des grosses entreprises comme tu mentionnais Huawei, on peut mentionner Xiaomi, qui ont cette compétence-là, qui savent et faire des chipsets et faire du software, qui ont montré ces
finalement,
capacités
d'intégration. Finalement, le mécanique, c'est pas le plus compliqué, quoi.
Non. Voilà, et la valeur n'est plus là. La valeur n'est plus dans la mécanique. C'est-à-dire que la valeur, ça va être dans le software, ça va être dans la maintenance, ça va être dans ce qu'on appelle les software upgrades, quand il faut avoir le dernier software qui est en marche.
Le modèle auquel tu vas vendre, à l'abonnement, etc.
Absolument, dans la connectivité, dans tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire tout le cloud, parce que la voiture communique très régulièrement avec son cloud, qui lui donne un certain nombre d'informations, les relations entre les voitures, puisqu'elles se parlent ensemble, donc toutes ces choses-là deviennent absolument essentielles et créent la valeur des voitures modernes, beaucoup plus que la mécanique. Donc, oui, c'est compliqué, c'est encore plus compliqué, mais c'est pas du tout le même type de complexité. À la place d'être une complexité mécanique, c'est une complexité software et surtout ce qu'on appelle software-hardware intégration.
Clément, tu voulais réagir.
Oui, il y a un élément qu'on n'a pas cité qui est important en ce qui concerne l'Europe, qui est aussi la contrainte de 2035 du tout électrique. C'est-à-dire qu'on a une obligation à date. Si tu me demandes, je te dirais que ça va bouger. Mais en 2035...
Parce que ça commence à craquer un peu partout, notamment...
Oui, puis ça va être comme le DPE pour les apparts, tu vois. Ça arrive et on dit, finalement, pour les petites surfaces...
Vous ne pouvez pas nous rajouter 5
ans. Exactement. Et en fait, on a une contrainte qui est en 2035. En France, en Europe, tu vends plus de voitures à essence. Bon. C'est là qu'on est un peu embêté. Parce qu'on est pris entre deux obligations qui ont... C'est très bien, on veut sauver la planète, on dit qu'il faut électrifier, etc., etc. Donc l'Europe a besoin de faire rentrer énormément de véhicules électriques sur le marché pour que les gens puissent se fournir. Et il n'y a pas que des millionnaires qui vont s'acheter des voitures électriques, c'est plus que les mecs qui peuvent s'acheter des Tesla. Donc il va en falloir des pas chers. Merci la Chine, vous savez produire beaucoup de voitures pas chères. Problème, à côté de ça, tu as les fournisseurs français et européens en général qui disent OK, mais en même temps, vous êtes en train de dire que vous voulez remonter en France à 12% de l'industrialisation qui est française. Bah, c'est pas en nous envoyant des tonnes de voitures chinoises que vous allez nous aider. Donc là, l'Europe est un peu pris entre deux feux. Il y a c'est pas un hasard si Luca De Meo, le DG de Renault, a commencé à dire dans les journaux, je crois que c'était dans le Figaro en février, il faut qu'on fasse des partenariats avec les Chinois, c'est intéressant de regarder, ils ont des bons ingénieurs. Bon, mais à un moment, c'est ce que tu disais il y a 5 minutes Fred. Il va falloir que l'Europe se pose et dise comment est-ce qu'on protège. Donc la France commence à dire on sort les voitures chinoises du bonus écologique, va y avoir un peu de protectionnisme à droite à gauche, mais on a un vrai choix stratégique parce qu'on est pris entre le marteau et l'enclume en Europe, ça va pas être facile de s'en sortir.
Je pense qu'on refera pas le monde, mais on a fait une très grosse bêtise en allant directement sur l'électrique. On aurait dû faire un objectif différent, en disant voilà, 2035, il faut qu'une voiture elle ait tout ça comme critère, qu'elle consomme ça, que son recyclage ce soit ça, que son empreinte carbone ce soit ça. Débrouillez-vous. Vous voulez continuer avec de l'alcool de betterave, allez-y avec l'alcool de betterave. Vous voulez y aller avec de l'électrique, allez-y avec l'électrique. Et là, on aurait pu avoir notre chance parce qu'on aurait pu essayer de tirer. On a des super bons chimistes, on a des super bons physiques. Bon voilà, l'histoire est faite. On a voulu.
Tu veux dire que cette réglementation européenne, on se tire une balle dans le pied finalement.
Mais je trouve que c'était une bêtise.
Et ça facilite la concurrence.
On aurait mieux fait de dire. L'objectif, c'est ça. On doit réduire l'empreinte carbone de ça. Et les voitures maintenant, quand elles roulent, elles doivent leur empreinte carbone, ça doit être ça. À partir du moment où on décide de construire, tout le cycle de construction, de logistique, de maintenance, c'est tout ça. Non, on a décidé d'aller tout de suite vers l'électrique. Je pense que c'est une bêtise. On aurait pu être beaucoup plus innovant dans plein de domaines. La deuxième chose, je pense que sur la Chine, je comprends pas qu'on s'interroge pas. Ces voitures fabriquées en Chine, on s'est interrogé sur les smartphones et la data, mais la data, comment ça se fait qu'on s'interroge pas sur ces BYD qui arrivent en France avec tout ça est fait en Chine, les processeurs et la data là-dedans, elle va, enfin personne se dit.
Non, Frédéric, moi je peux pas être d'accord avec ce que tu as dit sur deux choses. D'abord le protectionnisme et le fait que il fallait pas y aller. Si il y a des impératifs écologiques.
Oui, mais ça aurait été fait autrement que par l'électrique.
Les mesures ont été prises il y a longtemps. Les constructeurs européens ont sous-estimé les difficultés, ont sous-estimé le travail. Pour certains, ont traîné des pieds, alors qu'un certain nombre de concurrents, dont Tesla, sont partis.
Oui, mais en dedans l'électrique, on aurait pu parler des biocarburants, des choses comme ça.
On a payé très cher notre stratégie diesel depuis des dizaines d'années. Je crois que c'est ça le problème.
Je pense que nous avons fait des bêtises, mais c'est pas le régulateur qui a fait des bêtises. Le régulateur a fait son travail. Ce sont les industriels. Enfin, Tesla a pris des risques énormes quand il a monté toutes ces stations de recherche.
Mais on aurait dû donner un objectif.
Qui en Europe a pris ces risques-là?
On aurait dû donner un objectif en disant allez-y vers l'électrique, vers les biocarburants, vers évaluer toutes ces sortes de technologies et choisissez. Alors, certains auraient pris le risque du biocarburant, d'autres le risque de l'électrique. Je trouve que aller comme ça direct vers l'électrique, pour moi, c'était une erreur.
Voilà. Deuxième chose. En ce qui concerne les droits de douane, l'Europe n'est pas alignée. En effet, les Français, Luca Di Meo, etc., disent qu'il faut remettre des droits de douane. Okay, les Allemands, Mercedes, BMW,
ils
n'en veulent pas. Et puis, il ne faut pas oublier que beaucoup des Dacia, toutes les DS sont faites en Chine. Donc, si on met les droits de douane, la DS et les Dacia, elles vont aussi être chargées. Ça, c'est la deuxième chose sur laquelle il faut faire attention. L'Europe n'est pas unie sur cette histoire de droits de douane.
Comme sur beaucoup de sujets, d'ailleurs.
Troisième chose que tu parlais, c'est les data. Les entreprises sont tenues de respecter la régulation sur la privacy, sur les data privées, RGPD, etc., etc. Donc, toute entreprise chinoise, russe, japonaise, nord-coréenne, s'il fallait, ok, heureusement, ils en sont encore loin, quand ils viennent en Europe, sont obligés de respecter les lois. Et donc, ça veut dire qu'elles travaillent sur des clouds qui sont, entre autres, des clouds certifiés, etc., comme AWS, comme Azure, etc., etc. Donc, je pense qu'on a le droit...
Oui, tu as l'interrogation du respect de ces lois vis-à-vis des Chinois.
Mais pourquoi, Huawei n'a pas fait ça avec ses téléphones?
Mais Huawei, attendez, quand Huawei... Alors moi, d'abord, je suis pas... Il faut leur demander à eux, il faut les inviter. Mais en 2019, je suis pas sûr que le DMA existait, puisqu'il vient d'être publié. Donc, voilà. Après, moi, je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur téléphone ou pas. En tout cas, moi, quand j'étais chez Orange, j'ai jamais eu de remontée qui donnait, que ce soit Huawei ou d'autres, des remontées d'informations.
Non, mais tu sais très bien qu'il y a eu des suspicions d'espionnage technologique de la part de Huawei sur les équipements, sur les téléphones, etc. Ça n'a jamais été prouvé. Hein,
oui. Attendez, on ne va pas être naïf. Qui n'espionne pas dans ce monde? Vous me dites, est-ce que les Chinois espionnent? Je vais vous dire, ça n'a jamais été prouvé, je suis sûr que c'est vrai. Est-ce que les Américains espionnent?
Bien sûr aussi.
Oui, je suis sûr que c'est vrai. Est-ce que les Français espionnent? Mais bien sûr, heureusement, et je l'espère que nous espionnons. Sinon, on est vraiment bêtes et naïfs. Donc, oui, les pays espionnent. Oui, les gens s'espionnent. Ça, c'est une nouveauté. Alors, est-ce que c'est bien? Non. Est-ce qu'il faut se battre pour pas qu'ils nous espionnent? Bien sûr. Mais honnêtement, je pense que la législation et le régulateur en Europe fait tout pour obliger tout ce qui est importé dans ce pays et en Europe pour respecter la privacy, enfin, ou la vie privée des gens. Et je pense qu'il faut quand même remercier et mettre en avant tout le travail qui est fait par la Commission européenne, parce qu'on leur tape beaucoup dessus. Je trouve qu'ils font un travail remarquable et je trouve qu'il faut être raisonnable en disant que nous sommes probablement dans le monde la zone géographique la plus protégée au sujet des data et il faut en remercier le régulateur.
Ouais.
Après, un dernier élément qui est... moi, le seul truc qui m'embête, je suis assez aigné sur le fait que la démarche aurait dû venir du marché. Je veux dire, les entreprises chinoises, c'est depuis 2010 qu'on voit émerger énormément d'entreprises chinoises. 2010-2015, ils sont lancés notamment dans l'électrique avec des pure players dessus, etc. Après, moi, ce qui m'embête, c'est que l'Europe a quand même ce côté un peu, et l'Europe pas au sens institutionnel, hein, nous tous, un peu ce côté ravi de la crèche, de, à chaque fois qu'il arrive un truc, une nouvelle innovation, une bonne idée pour la planète, un truc, on est très naïf quand même. J'ai l'impression de revivre le truc des panneaux solaires. Ah, on va subventionner les panneaux solaires. Hop, on a subventionné tous les constructeurs de panneaux solaires chinois parce qu'en fait, c'était les moins chers. Je ne sais pas quelle est la concertation, je ne suis pas un spécialiste des institutions, entre les institutions, le privé, etc., au moment de lancer ce type de bonus, de subvention, de machin. Mais il y a ce côté un peu ravi de la crèche de, à chaque fois qu'on se positionne quelque part, tu as l'impression, sur une nouvelle technologie, un nouveau truc qu'on essaie de pousser, tu as l'impression que c'est tout le monde qui en profite, sauf les constructeurs européens, alors qu'on dit qu'on veut réindustrialiser. C'est quand même agaçant. Et je peux te dire qu'une boîte comme Zeekr, par exemple, moi, je connais des gens qui travaillent pour la communication de cette entreprise chinoise en Chine, qui ont déjà un plan de com dans les voitures sur, pardon, comment est-ce qu'en 2024, ils poncent le marché européen. Le plan de com, il est nickel, il est prêt, il a commencé il y a 2 mois. Je veux dire, eux, ils le savent très bien dans quelle situation nous, on se met économiquement. Ils savent sur quoi on va subventionner, ils sont prêts.
Alors après, je ne sais pas si tu as vu, Fred.
On a un passif aussi hein, pour les voitures. On est quand même toute notre industrie derrière, si tu veux, le passage, la prise de risque.
Ah oui, bien sûr. Comme tous ces acteurs historiques de l'automobile qui ont du mal à se transformer.
Une usine en grève, enfin, tu vois, c'est toutes les usines de voitures, puis derrière, c'est toute l'industrie.
Mais maintenant, on a quand même un paquet d'avantages, parce que là, on est un petit peu négatif. Maintenant, il faut regarder aussi les aspects positifs. D'abord, on a des marques. Et honnêtement, les gens, enfin les clients, que ce soit au Japon, que ce soit à Taïwan, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis...
Peugeot, troisième marque préférée, je crois, des
Français. OK. Adore acheter les marques européennes. Oui. Ça montre un statut. Quand on s'achète une Peugeot, quand on s'achète une BMW, ou quand on s'achète une Ferrari, ça montre un statut dans le monde entier. Et ça, il faut
le reconnaître.
Mais
est-ce que c'est pas l'ancien monde, ça, finalement?
Non, c'est pas l'ancien monde.
Tu crois pas?
Non, c'est pas l'ancien monde, parce que aujourd'hui, tout ça, quand on est dans la commodité, on achète des marques. Quand on est dans la commodité, on achète des polos, on achète des t-shirts qui ont des marques, on achète des sacs à main, on achète des chaussures qui ont des marques.
Non, enfin, il y a plein de milliardaires qui n'ont plus acheté de BMW, qui à la place se sont offert une Tesla, tu vois.
C'est une marque.
Oui, mais parce que
c'est une marque.
Bien sûr, mais qui au départ n'était pas aussi haut de gamme que d'autres marques de véhicules, premium. C'est ça que je veux dire.
Que les marques changent, que en effet, il y a des marques qui montent et des marques qui descendent. C'est la vie des marques. Mais il faut quand même reconnaître, et je trouve c'est extrêmement positif, que la notion de marque européenne, ça a toujours du poids. Quand on achète un sac Chanel, on achète un sac Chanel. Et un sac, c'est un sac. Et croyez-moi, les Chinois savent fabriquer des sacs. Sauf qu'un Chanel, c'est plusieurs milliers d'euros. Un sac chinois, quand ça arrive à plusieurs centaines, c'est déjà
exceptionnel. Oui, mais là, tu compares le luxe avec l'industrie automobile. Est-ce que tu penses que beaucoup de Chinois vont acheter des véhicules français ou européens?
Ben, les Chinois achètent beaucoup de
Mercedes. Ils ont tellement de choix aujourd'hui.
On parle de haut de gamme. Il ne faut pas confondre le haut de gamme et le reste du marché. Après, la fidélité des Européens est vraie. C'est-à-dire que quand tu regardes les stats, tu as 25% à peu près des. Ce que disait. Bah, je parlais de l'interview de Demeo tout à l'heure, mais il disait on a été disrupté dans les années 60-70 par les Américains. Enfin, ils ont débarqué. Les Coréens ont débarqué dans les années 2000, les Japonais ont débarqué dans les années 80-90. Hors marque européenne, c'est toujours 25% du marché. 75% du marché des bagnoles en Europe, c'est des marques européennes. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de fidélité pour l'instant. La question, c'est combien de temps ça va venir. Les chiffres prouvent aussi que c'est quand même très générationnel. C'est-à-dire que, tu vois, moi, mon grand-père qui a toujours acheté Citroën parce que sa première voiture, c'était une Citroën. Bien sûr. Mon autre grand-père, c'était Peugeot et ça aurait jamais bougé, c'était Peugeot. Mm-hmm. Je sais pas si les générations actuelles auront le même attachement. Non. Mais à date, en tout cas, c'est vrai que c'est un chiffre qui est parlant, c'est que en Europe, t'achètes européen. Pour l'instant.
Non, mais ce qui va changer, c'est la façon dont on va vendre les voitures, c'est le service qu'on va vendre autour.
Absolument.
C'est de dire, tiens,
où est la valeur?
Ouais, où est-ce que je vais prendre une Renault? Non, moi, je veux une voiture qui m'amène de Paris à Lyon le week-end prochain. Et à Lyon, je voudrais aller dans la campagne à 30 km avec une autre voiture, parce que je vais rester deux jours à Lyon, puis je voudrais une voiture plus grande, parce que je récupère mes enfants qui arrivent par le train.
Oui, tu veux dire par là qu'on achètera un ensemble de services de mobilité. Voilà. C'est ça?
Enfin, entre autres, il y aura des gens certains auront toujours leur voiture parce qu'ils en auront besoin, parce que pour X raisons, ils auront besoin d'avoir leur propre voiture, mais c'est aussi la façon dont on va un peu. Mais même des voitures achetées, ça va être du leasing et l'assurance dessus. Enfin, on va peut-être plus acheter la voiture. Et puis, il y a une autre chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est tout ce qui est le marché d'occasion. On sait que les gens aujourd'hui, t'achètes une Tesla, marché d'occasion. T'es pas complètement sûr, hein. T'achètes même une voiture électrique, une Zoé, suivi mon regard. Bah, tu sais que le marché occasion, oui, il y a quand même Renault derrière, il y a du monde derrière. Aujourd'hui, il y a ça aussi, hein, chez Tesla. On arrive à la période où, acheter une Tesla d'occasion, oui, mais est-ce que le circuit est bien fait? Toute
Oui, et puis c'est surtout
le circuit bâti. Les occasions, Peugeot, Renault, voiture, machin, tout ça.
Mais ce que tu dis, c'est vraiment la deuxième chose qui est essentielle. Il y a la marque, mais il y a le marché d'occasion. Parce que si on achète une voiture 100, hein, ou on va dire 30 000 euros, okay, et qu'on la revend après 5 ans, 20 000 euros, et qu'on l'achète en leasing, le coût du leasing va être faible, alors que si on achète une voiture 20 000 euros et qu'on la revend 5 000 euros, le coût du leasing va être fort. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les consommateurs achètent de plus en plus de voitures en leasing, le problème n'est pas le prix de la voiture, c'est l'écart de prix entre la voiture neuve et la voiture d'occasion.
Qui valide ton loyer.
Et on voit, je vais prendre un exemple, parce que tout le monde c'est pas mon cas, mais tout le monde ne roule pas en Ferrari, et moi non plus. Mais ce que je veux dire, c'est quand on achète une Ferrari et qu'on la revend plus cher, on a gagné de l'argent. Quand on achète une voiture et qu'on la revend presque pas, on a perdu beaucoup d'argent. Mmh. Hein, et c'est ça, cette notion de leasing. Et bien sûr, quand on a une marque, eh bien, la marque baisse moins. Et donc, quelque part, le coût de la voiture est moindre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention, parce qu'on est un peu dans le drame. Parce qu'en effet, quand ça devient une commodité, la valeur change, etc. Mais on a un certain nombre d'atouts. Et je ne suis pas... c'est pas dramatique. Moi, je me souviens avoir vu les voitures japonaises et coréennes arriver, et puis elles sont là. Bon, donc il y a des voitures chinoises qui vont arriver. Normal, c'est le plus gros marché au monde. 25 millions de voitures sont vendues par an en Chine. C'est l'équivalent du marché européen plus du marché américain. Donc c'est pas anormal qu'il ressorte un ou deux constructeurs. C'est la vie.
Bon, bah écoutez, on a fait 25 minutes sur l'automobile électrique, mais alors les doigts dans le nez, parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter et on aurait pu continuer encore. Très intéressant, mais vous dites.
Yves Roulant Ferrari.
J'aimerais bien.
Vous vous dites, ils n'ont pas parlé d'IA. Non, mais rassurez-vous, hein, l'intelligence artificielle arrive juste après l'info, écho, parce qu'on va évoquer ce super ordinateur à près de 100 milliards de dollars qui est porté par OpenAI et Microsoft. Ce sera l'un des sujets qu'on va débriefer ensemble avec Yves, Clément et Fred, juste après l'info qui arrive. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co. avec ce soir pour débriefer l'actu Yves Maître, Clément David et Frédéric Simotel. Et après avoir parlé d'automobile, du marché de l'auto électrique et de, on va dire, de tous ces changements géostratégiques, géopolitiques qui sont en train de se dessiner, à retrouver évidemment en replay ou en podcast si vous n'étiez pas avec nous, on enchaîne sur l'IA avec ce super ordinateur à près de 100 milliards de dollars. Voici le projet fou porté par OpenAI et Sam Altman et Microsoft avec un objectif, accélérer le développement de l'intelligence artificielle. Les explications de Nathan Cocampo.
Nom du projet, Stargate. Pas une porte des étoiles qui permet de voyager aux confins de la galaxie comme dans la célèbre série de science-fiction des années 90, mais un ordinateur d'une puissance encore jamais vue auparavant. Des millions de puces dédiées à l'intelligence artificielle seront réunies dans un même centre de données aux États-Unis. La facture pourrait s'élever à près de 100 milliards de dollars selon le média The Information. C'est 100 fois plus que le coût d'un grand centre de données actuel. Si l'IA a déjà montré en quelques mois une partie de son potentiel avec des outils conversationnels comme ChatGPT ou des générateurs de vidéos comme Sora, qu'en sera-t-il avec un ordinateur ultra puissant comme Stargate, prévu pour repousser encore les limites? En tout cas, cette puissance recherchée nécessitera énormément d'énergie, on parle de 5 gigawatts, soit l'équivalent de la puissance de 5 réacteurs nucléaires actuels. Le projet pourrait d'ailleurs fonctionner à l'aide de son propre réacteur nucléaire, seule énergie capable de générer la puissance nécessaire sans émission de gaz à effet de serre. Après avoir investi plus de 13 milliards de dollars ces dernières années dans l'entreprise de Sam Altman, Microsoft passe donc à la vitesse supérieure avec Stargate, prévu pour 2028, le plus grand calculateur d'une série de 5 projets qu'il prévoit de développer ensemble d'ici à la fin de la décennie.
Voilà, explication très claire, signée Nathan Cocampo. Donc voilà, encore une fois, là on dépense des milliards, une centaine pour accélérer sur, évidemment, on le dit, on le répète, la chair à canon de cette intelligence artificielle, c'est la puissance de calcul. Que pensez-vous de ce nouveau projet donc de OpenAI et de Microsoft qui commence là-dessus? Tiens, peut-être Clément.
Allez. Quand c'est un data center, généralement c'est moi qui m'y colle.
C'est vrai.
Le premier truc, moi j'ai vu ça. Alors il y a un truc qu'il faut que les gens sachent. Quand on parle d'un investissement de 100 milliards, on parlera peut-être des data centers à 150 milliards d'Amazon, il faut savoir que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ça veut juste dire on va mettre une tonne d'argent sur la table parce qu'on veut investir beaucoup. Mais en fait, sur combien de temps? Qu'est-ce que tu mets dedans? Par exemple, ils te mettent le calcul aussi des coûts cloud qu'ils offrent ou des services qu'ils auraient facturés, si machin. C'est pas vraiment qu'il y a... C'est comme quand t'achètes un joueur de foot. Ouais. T'apprends qu'ils ont acheté, je sais pas quel joueur, 200 millions. En fait, c'est 100 millions cette année, plus les revenus sur les droits d'image, machin.
Ce qui était le cas avec OpenAI et Microsoft, oui. Parce que, oui. En fait, on a parlé d'un rachat de 13 milliards. Enfin, en tout cas, c'était d'un investissement de 13 milliards. Cloud, ouais. Mais il y avait un crédit cloud. Exactement. De plusieurs milliards, en fait. Donc, effectivement, ça fausse un
donc,
peu.
C'est le premier truc. Donc, faut savoir que cette somme, c'est pas un chèque demain matin, il y a quelqu'un qui se retrouve avec 150 milliards sur un compte en banque pour construire un data center. En revanche, le deuxième truc, c'est que quand tu regardes les annonces de septembre, et je suis désolé, ça va jeter un froid tout de suite, de Scaleway, qui est sûrement l'entreprise en France qui innove le plus côté cloud provider sur l'IA, le chèque qui était annoncé, c'était 50 millions.
Ça, c'est sûr. Hein.
C'est, une fois que tu as dit ça.
C'est des constatations qu'on fait tous les soirs dans tes
échos. C'est donc.
Le déséquilibre est, ouais. est plus que horrible. Il est démesuré.
Il est insane. Il est incroyable. Insane. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, ils accélèrent. Bon, très bien, on le sait. Dans le monde du cloud et dans le monde de l'IA, Microsoft a pris un. En anglais, on dirait un glow, tu vois, mais un. Comment est-ce qu'on peut dire ? Un brillant, tu vois, a pris une lumière depuis un an qui est incroyable. Enfin, depuis le rachat, donc il y a depuis 6-8 mois, qui est incroyable. C'est-à-dire que ils sont là où c'était une boîte qui était perçue comme rassurante, bon père de famille, mm-hmm. tout ce que tu veux, etc. C'est en train de devenir une locomotive à laquelle il faut absolument s'accrocher. Et ce genre d'annonce va faire que accentuer ce phénomène. Mais le truc à retenir, c'est qu'en fait, ils sont sur une pépite, ils le savent, ils ont mis un coup d'avance à tout le monde. Je peux te dire que côté Amazon et Google, on l'a très mauvaise, ne serait-ce qu'en termes de communication, et que tant qu'ils vont continuer à faire des annonces comme ça, ils vont garder leur coup d'avance.
Avec leur voice engine, alors on s'éloigne un petit peu du sujet, mais tout ça est intimement lié, je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. C'est le fait d'écouter 15 secondes d'une voix de n'importe qui pour après lui faire dire n'importe quoi. Alors ça existe aujourd'hui, mais ça prend beaucoup plus de temps, ça marche pas toujours, etc. Là, voilà, non, Voice mais... Engine... Non. 15 secondes, je crois, hein, de voix, et puis après, on vous accueille.
Derrière, ça c'est le calcul, mais, et d'ailleurs, en faire un peu de teasing, parce que tu reçois Laurent Bataille, le patron de Schneider Electric, et qui, justement, est partie prenante, et ils sont partie prenante dans la construction de ces... Alors, peut-être pas de ceux-là en particulier, mais ils sont quand même très présents. Et c'est justement là où Microsoft est fort aussi. C'est que Microsoft, aujourd'hui, Satya Nadella, il avait deux grands axes. Alors, OpenAI est arrivé un peu après, mais il avait le cloud, et tout ce qui était production d'électricité, parce qu'il s'est vite rendu compte à la vitesse à laquelle il vendait du Azure, qu'il allait avoir besoin d'électricité, au point d'envisager de construire lui-même ses propres centrales nucléaires pour produire l'électricité, ce qu'il imagine là déjà. Et c'est là où Microsoft est fort, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer, alors c'est pas forcément, ce sera pas une centrale nucléaire et Microsoft by Microsoft, mais ils ont cette capacité à emmener des industriels, à emmener toute une équipe, et dans ces 100 milliards, il y a ça, il y a du logiciel, il y a du serveur, il y a peut-être du Schneider Electric pour la gestion de tout ce qui est la clim, l'électricité, enfin tout ce que Schneider sait faire. Et puis il y a cette partie production d'électricité avec construction d'usines nucléaires, parce que ce sera la seule énergie propre capable d'aller enfin de fournir tout ça. Et c'est là où les 100 milliards, et c'est là où nous, en Europe, oui, on met 50 millions. Par contre, on espère que EDF va faire marcher ses EPR, on espère que le réseau va suivre, alors que Microsoft, là, ils arrivent avec des projets un peu globaux, quoi.
Moi, Yves, ce que je pense, c'est que, comme on l'avait déjà dit, on en avait déjà discuté, le métier de l'AI, c'est pas uniquement ChatGPT, c'est toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Et c'est fondamentalement un métier d'infrastructure. Comme l'électricité, c'est pas l'ampoule. C'est toutes les centrales qu'il y a derrière, les réseaux de distribution, les transformateurs, etc., les barrages, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on est dans un métier d'infrastructure. ChatGPT, c'est quelques dizaines de milliards. Le cloud Amazon, Microsoft qui vient d'être annoncé, 100 milliards plus 150 milliards. Donc on voit bien que c'est un métier d'infrastructure, c'est des métiers qui demandent énormément d'argent, énormément de puissance. Et quand on regarde aujourd'hui, il y a les États-Unis et le reste du monde. Les États-Unis sont loin, ils continuent d'accélérer très fort, les deux annonces, Amazon, Microsoft. Et là, c'est pas un trou entre l'échappée et le peloton, c'est... Le maillot jaune est parti, et là, sur une étape, ils viennent gagner le Tour de France. Parce que ce qu'ils ont fait en un an, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est, pour l'Europe, à mon avis, quasiment irrattrapable.
Mais bien sûr.
Et même la Chine, quand on regarde la part de marché du plus gros cloud en Chine, qui est Alibaba, c'est moins de 4% au niveau mondial. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Et c'est incroyable. Et on voit que, bien qu'ils aient une avance déjà colossale, ils continuent d'accélérer sur le métier d'infrastructure, bien sûr sur le métier des langages, mais aussi sur le métier d'infrastructure. Et là, tout d'un coup, c'est juste dingue. Donc les États-Unis sont en train de prendre une avance pour les 10 à 20 prochaines années en ce moment. Et là, tu citais un certain nombre de chiffres financiers tout à l'heure. Bah ouais, c'est là, c'est... Et voilà.
Je serais curieux. On devrait regarder un peu. Moi, je dis souvent qu'il faut regarder les hommes aussi. Tu sais, on regardait dans tous les gens dans l'IA. Et je suis sûr qu'il faut regarder les hommes chez Microsoft, qui sont des gens de l'énergie, qui viennent de chez GE, qui viennent de des grands électriciens américains, et qui sont rentrés chez Microsoft pour justement bâtir à la fois ce réseau électrique, à la fois le réseau aussi. Tu vois, des gens de Cisco.
Absolument. Mais Amazon, c'est le plus gros acheteur mondial d'électricité verte. Le plus gros acheteur mondial d'électricité verte, c'est Amazon. Pour ses serveurs.
Et puis, pas loin, tu dois avoir Google, et pas loin, tu dois avoir Apple ou Microsoft aussi, non ?
La question de l'électricité, et entre autres l'électricité propre, et tu mentionnais le nucléaire, et tu as absolument raison. Aujourd'hui, il y a des mini-réacteurs nucléaires qui vont être mis autour de ces énormes usines de data. Donc on est dans un monde, c'est une nouvelle infrastructure. Autrefois on disait, où est, après Subtélécom, après SupAéro, où est SupAI? C'est un ensemble, c'est pas uniquement les langages comme ChatGPT ou Mistral, etc. C'est important, mais c'est un peu l'ampoule de l'électricité. Tout ce qu'il y a avant pour faire ces larges modèles, ça prend des sommes qui sont colossales. Aujourd'hui, on prend le budget de l'État, c'est 450 milliards d'euros par an en France.
les sommes qui viennent d'être annoncées entre Amazon et Microsoft, c'est 250 milliards. La moitié du budget de l'État. Donc, quand on dit que fait l'État, ben, même là, on voit que l'État ne peut plus. Mm-hmm. C'est hors de portée.
Non, c'est du privé.
Et donc, il faut que ce soit des investissements privé. D'entreprises, etc. Et donc, des prises de risques. Mm-hmm. Ce sont des prises de risques. Oui. Et ça, c'est une question de mentalité. On en revient à Tesla sur l'automobile. Okay. Est-ce qu'on est capable d'encore de prendre des risques mm-hmm. en Europe ?
Clément, et après on enchaîne sur Amazon.
Ouais, bah comme ça on fait la transition. Mais
bien sûr.
En fait, ce qui est marrant, c'est que quand nous on a commencé le cloud, la promesse c'était moins de data center parce que tu mutualises. Bon, c'est comme le covoiturage. En fait, je veux dire, en l'espace de 5 ans, on va passer à data center everywhere. Tu vas mettre des data centers absolument partout. Et les États, avant les États se battaient, et c'est encore le cas, tu vois, on parlait des voitures chinoises, par exemple l'usine BYD, mais pour avoir les usines. L'usine finalement va être construite en Hongrie, mais la France espérait de l'avoir. Maintenant, les États se battent pour avoir des data centers. Et tu vois, si on parle d'Amazon, il y a trois trucs. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à en construire des tonnes, des data centers? Il y a trois trucs.
Et donc là, c'est la nouvelle actu.
Transition.
150 milliards investis sur 15 ans pour Amazon.
Pour les data centers.
Pour justement être... on va dire, au top du top des data centers partout dans le monde. Ils sont déjà au top du top. Rappelons que c'est les numéros 1, AWS.
Amazon, c'est 31% de part de marché.
Voilà. Ouais. Mais ils étaient à 33 l'année dernière et ils voient que Microsoft est en train petit à petit de leur grappiller des parts de marché. Et puis il y a Google qui est là derrière aussi.
Et pas petit à petit, je pense que le coup OpenAI, là on l'a vu parce que c'est au quatrième trimestre. Hein. Donc 31 contre 33 pour Amazon. Google a gagné 1%. Google, je crois qu'ils sont un peu plus loin derrière, ils sont à 11%, voilà. Ils vont, mais avec Gemini, ils vont certainement avancer, parce que c'est vrai qu'on a peu entendu Amazon sur son IA.
C'est ceux qui ont la stratégie la moins lisible.
On sera à l'AWS Summit, ce sera l'occasion de leur poser la question.
Il sera demain d'ailleurs pour un Tech & Co spécial et Tech & Co Business aussi.
Tech & Co Business, ils ont investi beaucoup dans Anthropic, mais je pense que là, Microsoft, je serais curieux de voir sur l'année, les deux prochains trimestres 2024, comment Microsoft va grignoter, parce que toi tu connais les raisons contractuelles, c'est un peu plus compliqué de basculer de l'un vers l'autre. Mais enfin, ça se fait de plus en plus. Et je pense que l'année 2024 va montrer vraiment cette bascule d'un Amazon qui est en train de fléchir. Bon, même si la demande, elle reste forte, donc il fléchit dans un marché en croissance. Un Google qui monte, un Microsoft qui est en train de grimper en flèche. Et là, je pense que pour Amazon, c'est important de montrer attendez, mais nous, on va remettre de l'argent, rassurez-vous, restez chez nous. Enfin, il y a aussi cet effet d'annonce, je pense.
Tu vois, l'AWS Summit, moi j'y étais ce matin pour Paddock. Ils sont conscients de deux trucs. Ils ont pris du retard sur l'IA. Ils avaient une stratégie un peu de frugalité, de bon père de famille, de attendez, faut pas avoir les trucs qui brillent trop parce qu'il y a des promesses, mais la sécurité des données, machin. Ça a été complètement balayé par l'effet qu'il y avait autour de Google et Azure sur la partie générative AI. En plus, ils sont conscients d'avoir un truc, on parlera peut-être de Gmail tout à l'heure, mais qu'il leur manque un truc par rapport à Google et par rapport à Microsoft.
C'est
cette partie Office ou Drive, mais Office 365, où en fait, tu as tout un écosystème
qui est utilisé par n'importe qui.
Ouais, et souvent par les entreprises, où tu peux intégrer justement GenAI, machin. Mais c'est vrai que Amazon, ils ont besoin de montrer des choses, et puis il y a trois trucs. Un, ils ont besoin d'investir parce que les data centers, c'est très vite, je voulais dire outdated en tête, mais c'est très vite obsolète. Merci. Premier truc. Deuxième truc, t'en parlais, Yves, sur la partie énergie verte. Ils ont des contraintes sur faire de l'alimentation hydroélectrique, sur faire de l'alimentation verte, notamment aux États-Unis où il y a beaucoup de subventions qui sont liées à ça, qui nécessitent de faire énormément pour moderniser les data centers. Puis un troisième truc qui est, il faut aller construire des data centers dans certains marchés. Et par exemple, ils viennent d'annoncer qu'ils mettaient 5 milliards pour construire un ou plusieurs data centers en Arabie Saoudite, où Google est déjà très présent. Parce qu'en fait, le Moyen-Orient, en fait, exactement comme tous les pays du monde, et ça c'est une zone qui se développe beaucoup, on leur dit, attendez, nos données, faudrait qu'elle soit hébergée chez nous. Et construire un data center, ça coûte très cher. Donc, il faut la Thaïlande, la Malaisie, il faut aller conquérir ces marchés qui sont en demande de
soutien. Il faut régionaliser le cloud.
Exactement. Finalement. C'est la stratégie que tout le monde a et ça nécessite des dizaines et des dizaines de milliards.
Ben oui. D'où ces 150 milliards qui sont planifiés sur 15 ans, je crois.
Sur 15 ans.
10 milliards par an.
Nous, on a toutes les normes CSRD qui arrivent, le rapport de durabilité, il va falloir donner des chiffres aux entreprises.
On va terminer sur une bonne nouvelle, mais peut-être Yves là-dessus. Quelque chose à rajouter ou pas ?
Non, rien de particulier. Je pense que c'est un monde qui est en marche et les États-Unis ont une avance colossale. Voilà, c'est ce qu'on a dit.
Ce que tu as dit sur l'infrastructure est
Bon, Yves et moi, on se souvient quand on faisait tourner des petites dynamos dans les ruisseaux pour faire tourner.
Et puis sur le vélo aussi.
Voilà, sur le vélo pour faire allumer une petite ampoule en se disant c'est chouette, c'est ça l'électricité.
Bah, allez, on pourrait faire tourner un Game Boy éventuellement avec ça, mais
on
pas
va reparler
avis,
de Pinkido encore.
Pas un chipset de Nvidia. Bon, on a été un peu lourd ce soir.
Oui, enfin, dure soirée.
Passionnant, mais on va terminer quand même sur une note positive, si vous le voulez bien.
Allez.
Avec une première mondiale française, mesdames, messieurs. Et pour le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui vient de dévoiler donc pour la première fois une série d'images du cerveau qui sont obtenues grâce à un scanner IRM équipé d'un aimant surpuissant. De quoi espérer dans les années qui viennent des sauts technologiques et médicaux importants. On retrouve les explications de Jean-Baptiste Huette et on revient sur ce plateau.
Observer le cerveau humain avec une précision et une résolution inédites. C'est ce que promet ISE, un des scanners IRM les plus puissants du monde, capable de délivrer un champ magnétique d'une intensité de 11,7 Tesla contre 3 pour un scanner IRM classique. Cette installation va permettre aux scientifiques de redécouvrir le cerveau humain, d'observer les neurones en action, texture, contraste, veines. Sa résolution inédite devrait contribuer à faire des sauts technologiques dans la maladie d'Alzheimer, celle de Parkinson, la sclérose en plaques ou encore dans la psychiatrie. Au cœur de l'installation, un gigantesque aimant de 135 tonnes et de 5 mètres de diamètre, fabriqué par Alstom, un aimant supraconducteur refroidi à moins 271 degrés Celsius. Il a même fallu construire le bâtiment autour. Plus de 20 ans de travail pour les équipes du CEA et 70 millions d'euros ont été nécessaires pour réaliser cette prouesse scientifique. Un scanner qui, pour l'instant, est un outil expérimental. On ne verra pas ISO tout de suite dans nos hôpitaux. De nombreuses années seront en effet nécessaires avant de parvenir à miniaturiser une telle installation.
Eh bien voilà, le scanner le plus puissant au monde est français. Enfin, je crois qu'il est français et allemand, parce que les Allemands
ont
participé à ce projet. Vous avez vu les images, la clarté en fait des IRM, c'est toujours fascinant. Hein. On arrive à avoir, en fait, c'est comme si on passait de la vieille télé hertzienne à la TNT en HD, quoi. C'est incroyable. Et ça va permettre de découvrir peut-être des pathologies, de prévenir certaines pathologies. On parlait d'Alzheimer, etc., etc.
C'est l'étude du cerveau, c'est toujours ça. Moi, je me souviens toujours d'un chirurgien, d'un neurologue qui me dit toujours, on se rend pas compte toute l'énergie qu'il faut à notre cerveau pour fonctionner. Et voilà, quand on parlait tout à l'heure des puissance des processeurs, ben nous, enfin tout ça, et on a toujours du mal à comprendre comment cette énergie fonctionne. Alors, on réussit à voir quelle est la part du cerveau qui est plus matheuse que l'autre, l'émotionnel, tout ça, on voit tout ça à travers. Mais il y a tellement de choses encore à découvrir, c'est sûr qu'en descendant à ce niveau de puissance, alors on est dans la recherche encore là.
Oui, bien sûr.
Recherche fondamentale, mais non, c'est quand même impressionnant. C'est aujourd'hui, c'est entre 1,5 et 3 Tesla.
On est à 11 ou quasiment 12 Tesla.
Il en manque à 12 Tesla. Et pour ceux qui ont vu Oppenheimer, d'ailleurs, c'était intéressant parce que la résonance magnétique nucléaire qui crée Oppenheimer pour la bombe nucléaire, à partir de cette technologie-là.
On a commencé par les Tesla, on termine par les Tesla, mais pas du tout les mêmes.
Non, pas les mêmes.
C'est rigolo, hein, quand même. Tiens, juste un petit aparté. Mardi prochain, nous aurons l'un des chefs de ce projet du CEA qui sera sur le plateau de Tech & Co pour nous expliquer comment cet appareil a été conçu, parce que je ne sais pas si vous avez bien entendu Jean-Baptiste, ils ont décidé de créer cet appareil au milieu de l'endroit où il va être testé, parce que c'est tellement gros, ça fait 5 mètres de diamètre, 132 tonnes, enfin c'est un truc incroyable. Ça vous inspire ou pas?
Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que je me souviens...
Et c'est français, j'ai envie de dire. J'avais presque envie de dire un gros mot, mais c'est bien.
Il y a plein de choses européennes qui marchent très bien. Je préfère dire européennes que françaises, parce que dans ce cadre-là, il n'y a pas que les Français. Hein, c'est quand même un projet
où
il y a
prendre quand même c'est la
européen, mais majoritairement français sur ce projet-là. Mais quand on... Juste pour donner des images, le champ magnétique terrestre, c'est 5 10 puissance moins 5 Tesla. Donc c'est ce qui permet de voir qu'une aiguille se dirige pour diriger les bateaux, les avions, etc., etc. Quand je faisais mes études, il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça, je me souviens des professeurs qui me disaient, Yves, si à la fin d'un calcul, tu tombes sur quelque chose du style 0,5 Tesla ou 1 Tesla, mais tout à la poubelle, tu t'es trompé. Parce que ce n'est pas possible d'arriver à des choses de cet ordre de grandeur. C'est juste impossible. Eh bien, moins de 40 ans après, moins de 30 ans après, on est à 11 Tesla. Ouais. Donc mes professeurs de physique étaient quand même des
oui,
professeurs émérites.
Comptes, bien sûr.
C'est cette accélération. Ouais,
incroyable. C'est juste même incroyable. Eux qui étaient des experts de l'expertise n'imaginaient même pas dans leurs rêves les plus fous arriver à ça.
Inimaginable. inimaginable.
Et en attendant le quantique, qui va encore donner un petit coup de...
Ah oui, oui, c'est clair.
Accélérateur autour de tout ça.
Oui, bon. Mais ça, c'est un truc qui aujourd'hui est vrai en France, qui est l'excellence de la recherche française, notamment dans les matières scientifiques. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas d'entendre qu'il n'y a pas assez de moyens, que beaucoup de chercheurs partent aux États-Unis. C'est vrai qu'on ne forme pas assez d'ingénieurs, c'est vrai aussi. En revanche, quand tu regardes le très haut niveau de l'ingénierie française, quand tu regardes le niveau des mecs qui sortent de centrales, de polytechniques, des mines, etc., etc., on n'a rien à envier à personne. Et quand tu regardes le CEA, quand tu regardes le CNRS, etc., on est capable de... On a beaucoup de lauréats, de prix, de médailles Fields, de prix Nobel, etc., etc. On est très bien placé. On est capable de grandes innovations comme celle-là. On a toujours eu un peu de mal sur la partie commercialisation, industrialisation, etc., etc. Mais la France reste l'élite de l'ingénierie mondiale. Donc oui, c'est des trucs qu'il ne faut pas se...
Si on avait davantage de financiers qui aiment prendre des risques, si on avait davantage d'entrepreneurs qui aiment prendre des risques... C'est facile à dire, hein, notre position de journaliste. Mais justement, rien que le CEA... Mais toutes les innovations.
Non, mais le CEA, sortent, c'est incroyable.
On pourrait faire un Tech & Co tous les soirs sur l'innovation CEA du jour. Non, on va presque faire ça à chaque fois.
Je veux dire, il faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie.
Voilà.
Non, mais parce que.
Ça va gueuler.
Qui Ça va gueuler.
Ça va gueuler, je le sens.
Ça va gueuler. Non, mais. On veut des caisses de retraite. On a des caisses de retraite. Les caisses de retraite ne financent rien, à part les retraites. OK. Aux États-Unis, ils ont des fonds de pension. Ils n'ont pas de caisse de retraite. Moi, quand je vivais aux États-Unis, je cotisais pas pour ma retraite. J'avais des fonds de pension.
Qui met un peu d'argent. Okay.
J'avais c'est pas dans les mêmes ordres de grandeur, encore une fois.
4 milliards.
D'accord. Donc, évidemment, quand il y a des sommes aussi colossales que les fonds de pension américains qui investissent avec des gens qui prennent des risques sur ces caisses de retraite, enfin, ou sur ces fonds de pension, on n'a pas les mêmes résultats. Nous, aujourd'hui, on investit dans des assurances-vie, des SICAV monétaires. Bon, ben, on investit dans des SICAV monétaires. Évidemment, on n'a pas les mêmes résultats. Donc, je pense qu'il ne faut pas critiquer systématiquement. On a fait des choix. Ce sont des choix de société.
Tout à fait.
Ces choix de société, eh ben, ils donnent un certain nombre de résultats qui sont sociaux. Okay. Les Américains, ils ont fait d'autres choix qui sont beaucoup moins sociaux, où il y a plein de gens dans la rue à San Francisco qui dorment dehors, okay. Ce qui est malheureusement,
il y en
a toujours trop en Europe et en France, mais c'est pas du tout la même chose. Donc on a fait des choix, ces choix ne mènent pas aux mêmes conclusions. Et c'est vrai qu'en ce moment, nos choix nous pénalisent sur, non pas la recherche fondamentale, mais sur la mise en application de cette recherche fondamentale.
L'État-providence ou AWS, tu choisis.
Oui, c'est ça.
C'est à peu près ça, oui. État-providence ou AWS. Il y a des pour, il y a des contre.
Mais ce qui va être intéressant de voir avec ce projet qui est incroyable, qui, en fait, en théorie, tous les hôpitaux du monde entier, et sans doute les hôpitaux les plus riches, devraient s'arracher cette technologie.
Est-ce qu'ils seront équipés par une boîte française ?
Est-ce qu'alors, voilà, c'est ça, parce que Jean-Baptiste le disait, c'est pas pour tout de suite que ça va arriver, industrialisé ce truc-là. Ça, ouais. Il faut qu'ils arrivent à miniaturiser tout ça. Et est-ce que les moyens, au-delà de la recherche du résultat, vont être mis aussi pour que ça devienne un vrai business, en fait ? Parce que c'est ça la question. Et derrière ce business, c'est aussi peut-être détecter des maladies plus tôt, sauver des gens. Enfin, il y a une belle histoire derrière tout ça. C'est la question. Ça, on verra bien. C'est la question qu'on posera à notre chef de projet de cette IRM la semaine prochaine quand il viendra sur le plateau de Tech & Co. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Et bien voilà, on termine sur une note un peu positive quand même.
Et dire joyeux anniversaire à Gmail. Hein.
Voilà, oui, 20 ans.
Qui était sorti en 1er avril. Tout le monde pensait que c'était un poisson d'avril. Hein.
Mais tu sais quoi, tu pourras en parler jeudi dans Tech & Co. Ça peut être un bon sujet de débrief, tiens. Parce que les 20 ans de Gmail, ça va durer quelques jours.
Oui. Hein.
Merci beaucoup Yves Maître.
Bonsoir, merci.
Merci à Clément, David et merci à Fred Simotel. Vous restez avec nous, Tech & Co revient. On a encore une demi-heure à passer ensemble avec pas mal de sujets intéressants. On va se plonger dans la stratégie de Schneider Electric, très peu connue du grand public, mais une boîte incroyable qui investit énormément dans l'intelligence artificielle et la tech. On va en parler dans quelques instants. Et puis, je recevrai Isabelle Ril, qui est une ponte de l'IA, hein, qu'on recevra sur ce plateau et qui viendra nous parler d'un événement qu'elle est en train d'organiser et qui aura lieu là aussi début avril. Vous restez avec nous, bientôt 21h, Léa Benaïm nous rejoint pour le Tech Flash comme chaque soir. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Et dans un instant, je recevrai Laurent Bataille, le président de Schneider Electric France. Mais auparavant, à 21h02, ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi, c'est avec Léa Benaïm, l'actualité tech, bien sûr. Bonsoir Léa.
Et bonsoir François, bonsoir à tous. À la une, AWS veut conserver sa place de leader sur le marché du cloud. Pour ce faire, le géant va investir 150 milliards de dollars sur 15 ans pour construire des nouveaux data centers. L'entreprise veut dès maintenant anticiper les futurs besoins liés aux applications d'IA. Amazon possède toujours une avance sur son principal concurrent Microsoft, même si ses parts de marché ont légèrement baissé l'année dernière, passant de 33 à 31%. Google va supprimer des milliards de données pour mettre fin à des poursuites. Une affaire qui remonte à 2020, un recours collectif accusait Google d'avoir menti sur la navigation privée de Chrome. Pas si privé que ça, visiblement, car le navigateur récupérait tout de même les données de ses utilisateurs. Un accord à l'amiable a été proposé. En échange, Google s'engage à supprimer toutes les données récoltées. Et si l'accord est approuvé par la justice, Google évitera ainsi un procès. Microsoft fait un nouveau pas vers l'Europe. L'application de visioconférence Teams ne sera plus vendue dans la suite Office. C'est déjà le cas dans l'Union européenne depuis octobre, mais maintenant le monde entier est concerné. Cette demande vient initialement de son premier concurrent Slack, qui avait déposé plainte contre Microsoft il y a 2 ans. Le géant veut maintenant apaiser les tensions avec les régulateurs qui y voient une pratique anticoncurrentielle. Et puis il fallait s'y attendre, la publicité débarque sur Discord. Lancé en 2015, le réseau social qui met en relation les gamers avait jusqu'ici résisté aux sirènes, mais l'appel de la rentabilité est plus fort. Après avoir licencié 17% de ses effectifs il y a quelques semaines, Discord recherche des leviers de financement, surtout qu'il vise une introduction en bourse d'ici la fin de l'année. Avec ses 200 millions d'utilisateurs, la plateforme a finalement opté pour de la pub. Elle devrait débarquer d'ici quelques jours. Et pour finir, rendez-vous sur le site tech&co.com pour un nouvel épisode de multijoueur avec Melinda d'Avansoulas. Et on parle justement de l'IA qui débarque dans les jeux vidéo. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Nvidia Ace, une IA qui permettait d'animer, en fait, de donner vie aux personnages non jouables de vos jeux vidéo, ceux qui traînent dans le fond et qui servent normalement à rien. Et Pierre, là, ils sont allés encore plus loin.
Et oui, maintenant c'est Ubisoft qui a présenté son outil, toujours avec Nvidia, pour faire parler des PNJ qui justement sont entre guillemets sans intérêt dans le jeu, pour leur donner plus de corps, pour leur donner plus de répliques. Et le principe est toujours le même en fait. On parle au PNJ à travers un micro et le PNJ nous répond de manière entre guillemets fluide. Après, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, notamment sur l'écriture. Tous les personnages sont écrits. Attention, hein, tous les personnages ont des limites, ont une personnalité.
Une carte d'identité, en fait.
Une carte d'identité, mais en gros, ils peuvent nous répondre tout et n'importe quoi. Et c'est justement, ça pose beaucoup de questions sur l'avenir du jeu vidéo et aussi sur les limites de cette technologie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment sur l'écriture, sur le scénario, aussi sur la manière dont on va aborder nos jeux, parce que dans un open world, voilà, on n'interagit pas forcément de la même façon avec un PNJ, entre guillemets, écrit et un PNJ où on peut dire tout et n'importe quoi.
Voilà, à retrouver évidemment cette émission comme toutes les autres sur la plateforme Tech & Co, sur le site et l'appli BFM Business. N'hésitez pas, bien évidemment. Allez, il est 21h06, place à notre invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Laurent Bataille nous a rejoint. Bonsoir Laurent Bataille.
Bonsoir.
Vous êtes le président de Schneider Electric France et membre du comité exécutif de Schneider Electric. Schneider Electric, alors c'est vrai que c'est une boîte qui ne parle pas beaucoup au grand public et pourtant vous êtes un leader dans tout ce qui touche à l'équipement électrique, à la transition énergétique, à l'économie d'énergie. Enfin, vous êtes sur énormément de sujets. Vous existez depuis très longtemps. Il faut savoir qu'à la fin du XXe siècle, et ça c'est Wikipédia qui le dit, vous fabriquiez des tramways. C'est dingue ça quand même. Hein. Et puis petit à petit, voilà, vous avez fait évoluer votre activité. Comment présenteriez-vous Schneider Electric à des personnes qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là et qui sont un peu déconnectés de tout ce que vous faites?
Oui, alors je dirais aujourd'hui, on est donc le leader mondial de la gestion de l'énergie et également des automatismes industriels. Hein. Donc c'est vraiment deux jambes sur lesquelles marche Schneider. La gestion d'énergie, ça couvre toute la distribution électrique et l'intelligence qui permet de gérer, par exemple, les réseaux ou les actifs électriques. Donc nous, on ne produit pas d'électricité, mais partout où il y a de l'électricité, on permet de la transporter, de la protéger, de la sécuriser et également de la gérer. Et puis la deuxième jambe...
Donc c'est-à-dire les compteurs électriques, ça peut être vous?
Exactement. On est leader mondial sur la mesure électrique.
Intéressant de voir que vous avez un concurrent qui est français aussi,
oui,
qui est le Grand.
Oui, on a un certain nombre d'ailleurs de concurrents français. Il y a le Grand, il y a Hager, il y a Socomec. Donc il y a un certain nombre de belles entreprises françaises dans le secteur, en effet. Et le deuxième grand, la deuxième jambe, c'est les automatismes industriels, donc qui permettent d'automatiser et de rendre plus efficace l'industrie, l'usine, le monde de l'industrie, que ce soit le process, donc les industries comme par exemple le verre, ou les industries d'assemblage et manufacturière.
Voilà.
Il y a beaucoup de digital dans ce métier-là.
Bien sûr. On parle aussi beaucoup de vous pour tout ce qui est bâtiments connectés, dont la gestion de l'énergie se fait toute seule.
Tout à fait.
En quelque sorte. Voilà, vous êtes aussi leader dans ce domaine-là. Alors, vous organisez l'Innovation Summit World Tour qui a lieu c'est demain.
Demain et après-demain.
Ça arrive très vite. Hein. C'est à Paris, porte de Versailles. C'est un événement international avec plus de 2000 participants de plus de 40 pays, 50 partenaires de Schneider Electric, 40 intervenants, 204 dirigeants. C'est un peu votre summit et votre grand rendez-vous annuel. Pourquoi faire ce rendez-vous et qu'est-ce que vous y annoncez ?
Alors c'est effectivement un rendez-vous important. On aura plus de 3000 participants en
fait. Plus de 3000.
C'est à la fois des partenaires, mais également des clients. Et là, on met vraiment l'accent sur l'innovation et on appelle ça Innovation for Impact. Donc c'est l'innovation, mais le déploiement de l'innovation. Donc on va annoncer beaucoup de nouveaux produits et de nouvelles offres, mais vraiment avec une focalisation qui est sur la rapidité du déploiement par nos clients et nos partenaires. Une des choses qu'on va annoncer demain, c'est une série de ce qu'on appelle reference design, donc des architectures de référence pour les data centers, sur lesquels on a fait une collaboration avec Nvidia, donc le leader, on va dire, des semi-conducteurs, des puces, des chips.
Des processeurs qui fabriquent cette IA, bien sûr.
Pour l'IA, voilà.
Et justement, quelle est la teneur de ce partenariat? En quoi Nvidia aide Schneider Electric aujourd'hui?
Alors, on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'à la fois, ils nous aident à mieux comprendre ce qu'on appelle leurs clusters, qui sont donc leurs séries de processeurs, et comment ils se comportent en termes de température et d'énergie. Et nous, on les aide en publiant en fait des architectures de référence que l'ensemble du marché peut utiliser pour mettre en œuvre les systèmes et l'infrastructure qui va permettre d'utiliser ces processeurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on publie des architectures avec de la distribution électrique, de la haute tension, moyenne tension, basse tension, du contrôle de cette distribution électrique, mais également la distribution du refroidissement. Un des problèmes de l'IA, c'est qu'en fait, on a effectivement des processeurs très puissants, mais qui du coup dégagent beaucoup de chaleur. Il faut les refroidir. Et donc, une des choses qu'on révèle demain, c'est des nouvelles architectures de refroidissement, ce qu'on appelle des CDUs, Cooling Distribution Units, et également des gros refroidisseurs. Chez nous, c'est des Turbo Core Chillers.
D'accord. Et en fait, c'est comme des super clims.
Et c'est comme des super clims que vous voyez sur le toit des bâtiments, okay, et qui en fait permettent d'amener le froid au plus près du semi-conducteur, là où la dissipation de chaleur est très importante, compte tenu de la puissance de calcul de ces puces. Donc, on est en train de passer, historiquement, d'un refroidissement qui était à ce qu'on appelle air forcé, donc c'était avec de l'air, à du refroidissement avec du liquide, de façon à ce que le liquide aille au plus près du semi-conducteur et le refroidisse avec beaucoup plus d'efficacité. Mais ça demande énormément de précision dans le contrôle, et c'est là que vous voyez que les différents métiers de Schneider arrivent ensemble, le contrôle et les automatismes, mais également la distribution électrique et ses capacités de refroidissement.
Justement, en parlant d'intelligence artificielle, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle générative ou par exemple ChatGPT au quotidien dans votre entreprise?
Alors nous, sur l'intelligence artificielle, il y a vraiment trois facettes. La première, c'est on participe à la mise en œuvre de l'infrastructure de l'intelligence artificielle.
Là, vous êtes au cœur de la fabrication de cette IA, on va
dire. On vient d'en parler. Les data centers, c'est aujourd'hui une des plus grandes applications finales pour Schneider et une de celles qui tire le plus sa croissance. Deuxième sujet, c'est la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans nos propres processus internes. Mm-hmm. Donc là-dessus, on a une équipe d'IA qui est en fait source des idées auprès des équipes au quotidien, de façon à voir qu'est-ce qui vaut le coup d'être développé pour améliorer nos processus. Donc on a, entre autres, un centre d'IA à Paris, on en a trois dans le monde, hein, un en Inde, un aux États-Unis et un à Paris, qui nous permettent de regarder des cas d'application de l'IA sur nos propres process, par exemple, de façon à améliorer la documentation de référence de nos produits. Et puis il y a un troisième sujet qui est l'IA dans nos offres. Et comme vous le savez, Schneider a beaucoup de software. Et dans nos offres de software, on met en place de l'IA, soit de façon à améliorer des algorithmes, par exemple prédictifs, soit à améliorer l'interface pour l'utilisateur. Par exemple, dans nos softwares industriels, dorénavant, on peut simplement taper des questions et avoir les réponses qui viennent directement du software au lieu d'avoir besoin de les chercher dans les différents écrans.
Ça. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle générative, bien évidemment.
Oui.
Impressionnant. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu au grand public, parce que, mine de rien, on voit que vous essayez de faire des incursions dans ce grand public, et notamment dans l'usage domestique de l'énergie. Moi, je me souviens, je crois que c'était il y a 2 ans, vous étiez présent au CES de Las Vegas. Oui. Vous mettiez en avant une espèce de concept.
Oui.
De distribution d'énergie, panneaux photovoltaïques, voitures connectées, bornes électriques de recharge, gestion informatique de tout cela. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est un projet qui est toujours d'actualité? Et est-ce que le fait d'aller vers le B2C est une stratégie que vous suivez aujourd'hui?
Alors, sans nécessairement aller vers le B2C, on a toujours été dans la maison. La maison chez Schneider Electric, ou le résidentiel,
bien sûr,
pour nous.
Les interrupteurs, les prises,
exactement.
Tout ça. Voilà, vous êtes dans la maison.
C'est un métier où on est depuis une centaine d'années en protection électrique. Il se trouve que c'est un métier qui est en train d'évoluer. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'en fait, l'électricité est en train de devenir critique, à la fois en termes de production d'énergie. Vous avez de plus en plus de gens qui s'équipent de panneaux solaires. Rien qu'en France, en 2015, il n'y avait quasiment pas de panneaux solaires dans les maisons. Aujourd'hui, vous avez quasiment un demi-million de foyers qui sont équipés de panneaux solaires. Donc, le solaire, très important.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est-à-dire que finalement, on a de l'autosuffisance énergétique qui commence à arriver.
De
ça
plus
soulage,
en
fait, les infrastructures électriques qui sont parfois sous-dimensionnées.
Tout à fait. De plus en plus. Et en plus, c'est des technologies à déploiement rapide, ce qui permet de conjuguer ça avec le temps plus long, on va dire, des infrastructures, par exemple nucléaires. Deuxième sujet, c'est les infrastructures de recharge qui s'installe dans la maison et qui donc augmente la consommation d'électricité dans la maison de façon non négligeable. Et puis troisième sujet, c'est quand vous passez d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur électrique. Et donc vous avez beaucoup plus de pression sur le tableau électrique. Je rappelle que quand nous on fait des sondages dans le monde, vous avez à peu près un tiers des gens dans le résidentiel qui ne savent pas à quoi sert le tableau électrique. Il sert donc à protéger l'infrastructure. Et en l'occurrence, quand on installe des chargeurs électriques, des pompes à chaleur ou du solaire, c'est un vrai changement de l'infrastructure. Il faudrait changer de façon importante le panneau. Et au lieu de faire ça, c'est une des innovations qu'on annonce demain, on a créé un autre petit panneau qu'on appelle l'Energy Center, qui vient se rajouter au tableau électrique et qui permet de gérer ces sources nouvelles, le solaire par exemple, et ces charges nouvelles, le chargeur électrique pour le véhicule ou encore les pompes à chaleur, tout ça de façon sécurisée. Parce que le problème, ce serait de tirer trop d'électricité sur le tableau existant.
Et tout ça géré depuis son mobile.
Tout à fait. En fait.
Ou depuis son mobile, ou alors totalement automatiquement grâce à l'IA.
Ou entièrement automatiquement. Donc là, vous avez vraiment l'infrastructure physique, c'est ce qu'on appelle chez nous l'Energy Center. Et en parallèle de ça, via effectivement une app et un contrôleur, vous rajoutez l'intelligence qui va permettre progressivement, c'est des cas d'usage qui sont en train, par exemple, de se développer très fort aux États-Unis, mais de faire de l'arbitrage entre le solaire que vous pouvez stocker dans une batterie ou même dans votre véhicule, et puis de temps en temps le déstocker et l'utiliser parce que vous avez une coupure sur le réseau. Ça arrive en Amérique du Nord.
Et puis les voitures commencent à être compatibles. Je sais que Renault va sortir sa prochaine R5
à terme
compatible avec ce.
Vous allez avoir effectivement des batteries qui sont bidirectionnelles. Donc
ça va arriver en France. Vous parlez des États-Unis, c'est quelque chose.
Alors techniquement, oui. Après, vous avez toujours des questions. Chaque pays
a sa réglementation.
Voilà. Donc on va dire aujourd'hui, les pays qui ont une réglementation plus exploratoire sur les chargeurs bidirectionnels, ça va être une partie des États-Unis. Et vous allez également avoir l'Australie, plus que les pays européens.
D'accord.
Mais cette technologie, elle est quand même en train d'arriver.
Donc vous prenez pour un changement de réglementation, une réglementation plus allégée ou pas?
Bah, disons que ça dépend en fait des pratiques et des us et coutumes de chaque pays. Quand vous avez un réseau qui est moins stable, c'est vrai que pour chacun des,
ce qui est le cas aux États-Unis,
voilà, des occupants de maison, d'avoir du backup, hein, donc une batterie de secours, c'est important. En France, peut-être un petit peu moins.
Merci beaucoup, Laurent Bataille. C'est passionnant, tous ces sujets. À retrouver, évidemment, avec beaucoup d'autres, dès demain, à Paris, porte de Versailles, pendant deux jours, à l'occasion de cette Innovation Summit World Tour 2024. Merci beaucoup d'être passé par le plateau Tech & Co. Vous êtes, rappelons-le, président de Schneider Electric France. Direction tout de suite la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et j'accueille Sylvain Trinel sur le plateau de Tech & Co. Salut Sylvain.
Bonsoir.
Journaliste donc à la rédaction de Tech & Co. Et après Pluto TV et TF1+, Sylvain, la France s'apprête à accueillir une nouvelle plateforme de Fast TV.
Le Fast TV, on en parle depuis très longtemps. J'ai même vu une occurrence de votre part, François, en 2017. C'est dire, hein, ça nous rajeunit pas.
Vous étiez tout petit à l'époque.
Tout petit, j'aimerais bien. Alors évidemment, c'est la nouvelle manière pour les petits acteurs ou les studios de se lancer sur le marché de la SVOD et ainsi concurrencer Netflix, Disney+, et Prime Video. Alors le principe, pour ceux qui connaissent pas, c'est différentes chaînes qui sont disponibles et elles diffusent en continu avec différentes thématiques. Alors vous le disiez, il y a déjà un marché, hein, plutôt TV est présent, c'est un acteur majeur de cette tendance, mais Sony Pictures a annoncé vouloir s'y mettre en lançant Sony One dès ce mois d'avril en France, mais aussi dans le reste de l'Europe.
La question, parce que ça a l'air assez alléchant, est-ce que ce sera disponible partout en France ?
Alors pas
sur tous les écrans.
Voilà, pas tout à fait, pas sur tous les écrans. Dans un premier temps, Sony One ne va être disponible que sur les télévisions connectées Samsung et LG ou via les box TiVo, hein, qui ne sont pas dispo chez nous. Pas de téléviseur Sony, pas même de PlayStation 5, ce qui est tout de même un petit peu curieux forcément, puisque c'est les mêmes compagnies. Alors niveau programme, on a quand même du lourd. On va pouvoir compter sur Breaking Bad, Better Call Saul, une nounou d'enfer, mais aussi des films comme District 9.
Une nounou d'enfer, pareil, vous m'avez eu là. C'est bon.
Voilà. Alors c'est un catalogue assez ancien. Hein. Forcément, on a tout listé sur Tech & Co d'ailleurs.
Oui, c'est le fond de catalogue, on va dire.
Tout à fait, et ça permet justement de les diffuser gratuitement avec de la publicité. Alors, marché de la Fast TV, hein, ça ne fait que grossir depuis plusieurs années, avec l'augmentation notamment des prix des abonnements de Netflix et consorts. Alors évidemment, ce marché, il n'a pas fini de nous surprendre.
Eh oui, encore un nouvel acteur de Fast TV, avec Sony One. Merci beaucoup.
Hein, on se retrouve bientôt pour une autre plateforme de Fast TV, j'imagine.
J'en suis sûr. Mais est-ce que vous savez, mon cher Sylvain, que par exemple, toute la verticale BFM TV, BFM Business, est en Fast TV sur les télés Samsung?
Exactement, tout à fait.
Voilà. Et on salue tous ceux qui nous regardent, justement, par ce biais-là, sur les télés Samsung connectés. C'était Sylvain Trinel, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et pour terminer cette émission de ce lundi soir, on va encore parler d'intelligence artificielle avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
J'accueille Isabelle Ril. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'Institut Prairie. Alors c'est la Paris Artificial Intelligence Research Institute. Quand on concentre, ça donne Prairie, plutôt sympathique. Et vous êtes, on va dire, l'une des pontes de l'intelligence artificielle en France. Hein. On parle beaucoup de Yann Lequin dans cette émission, on parle beaucoup de Luc Julia, mais il faut qu'on parle aussi d'Isabelle Ril. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Vous êtes aussi professeur de l'Université de Lille. Vous avez été chercheur, etc. Enfin bref, vous avez un long pédigré dédié à l'intelligence artificielle. Vous avez d'ailleurs été aussi dans la commission de conseil hein, pour, vous savez, le grand projet d'IA du gouvernement. Hein, vous faisiez partie de toutes ces personnes qui ont cogité là-dessus. Alors expliquez-nous, vous êtes en train de mettre en place l'AID à Station F avec à cette occasion deux événements, les 3 et 4 avril. Décidément, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent pendant cette période. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez organiser demain et après-demain concernant l'IA, s'il vous plaît ?
Eh bien, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, je suis la directrice de Prairie, qui est un institut de recherche, qui est donc évidemment un truc académique, dans lequel on fait de la recherche fondamentale et de l'enseignement. Donc, premier point...
Recherche IA, bien
voilà,
sûr.
Voilà, et la formation des talents, qui est si importante pour toutes les entreprises.
C'est-à-dire que vous créez, enfin, vous participez, on va dire, à la création des talents de demain dans l'IA.
On l'espère en tout cas, oui, sur la formation à tous les niveaux, que ce soit niveau ingénieur ou docteur. Et aujourd'hui, tout ça, c'est un continuum jusqu'à l'innovation, jusqu'à la start-up et jusqu'à l'objet qui est dans votre poche à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est associé avec France Digital, qui est une association qui a beaucoup de membres qui sont des start-up et des VC, pour faire un événement à destination de l'écosystème. Durant ces deux jours, on va pouvoir recevoir des chercheurs, alors bien évidemment des chercheurs de Prairie, des chercheurs du monde entier. Vous citiez Yann Lequin, Luc Julia, nous ferons l'honneur d'être avec nous. Et puis aussi des VC, des gens des entreprises, etc., pour discuter de tous les sujets d'importance de l'IA actuellement.
Et alors, évidemment, les sujets sont passionnants. Hein. Par exemple, alors évidemment, il y a énormément de tables rondes et de rendez-vous. Un, par exemple, sur l'impact de l'IA sur les sciences, qui évidemment, va être passionnant, bien évidemment. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'on s'adresse, vous adressez quand même à un public averti avec ce type de rendez-vous?
Alors,
il y a deux jours, hein,
voilà,
je crois.
On a intentionnellement séparé les deux. C'est-à-dire que demain aura lieu une journée de chercheurs. Donc il faut vraiment un public averti, des gens de la R&D qui sont vraiment passionnés du code.
Là, ça va être high level.
Et le jour d'après, à Station F, à destination de tout le monde, afin de justement imprégner toute cette recherche, de la diffuser vers les entreprises, mais aussi vers les citoyens, les passionnés, et les gens qui ont envie de s'informer.
Très bien, c'est ouvert à tout le monde, en fait, ce type d'événement.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, Station F, on l'a dit. Donc demain, journée spéciale pour, on va dire, les chercheurs, et après-demain pour le grand public. On viendra, bien sûr. Évidemment, j'ai plein de questions à vous poser sur l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet que vous traitez au quotidien. On voit qu'il y a quand même, on va dire, deux écoles et deux clans hein, en France, notamment en France, ceux qui veulent embrasser cette technologie parce qu'elle va être source de développement, bien évidemment, de progrès. Et puis ceux qui sont de l'autre côté, en fait, hein, et qui disent qu'il faut freiner parce que cette IA va être destructrice d'emplois, qu'elle va nous échapper. Voilà, on a l'image de ce Terminator qui pourrait peut-être faire disparaître le monde. Quel est votre sentiment là-dessus?
Alors, Terminator, c'est un film que j'aime beaucoup, mais j'espère qu'il se produira jamais.
Il y a le 1 et le 2 hein, qui étaient bien. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, mais c'est vrai que c'était les deux premiers qui étaient impressionnants.
Toutes les technologies ont toujours fait peur. C'est la nouveauté, l'incompréhension des nouveaux phénomènes, ça fait peur, c'est normal. Il se passe peut-être quelque chose de plus cette fois-ci, c'est qu'en plus, ça va très très vite. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des technophiles d'un côté qui sont dans la dynamique et qui sont passionnés, et d'autres, les personnes qui reçoivent cette technologie, qui mettent un peu plus de temps à s'y adapter. Il faut pas oublier que ça reste quand même un outil. Terminator, c'est pas pour demain. Et donc, c'est vraiment un outil au service d'un certain nombre de nouveaux métiers et puis d'amélioration des conditions dans d'autres métiers. Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'emplois pour lesquels les gens peuvent se questionner. Dans le rapport que vous mentionnez tout à l'heure, il y a une étude qui a été conduite en particulier par Philippe Aguillon, sur laquelle il a analysé non pas les emplois, mais les tâches. Pour conclure qu'à peu près dans 95% des emplois, il y a des tâches qui vont pouvoir être automatisées par de l'IA, et probablement au bénéfice des gens qui occupent ces postes, puisqu'on va leur...
C'est-à-dire que l'IA va accompagner les employés.
Et puis on va leur enlever des tâches réparatives, fastidieuses, etc.
Pour enrichir en fait leur quotidien dans le travail.
On l'espère. Et il y a quand même 5% des emplois pour lesquels on peut s'inquiéter, évidemment, d'une disparition, qui va être compensée par de nouveaux emplois. Mais ça va impliquer que ces personnes, aujourd'hui, se reforment, changent un petit peu d'axe, etc. Et donc tout ça, ça nécessite un accompagnement.
Vous disiez tout à l'heure, le Terminator, on n'y est pas encore. Mais est-ce qu'à votre avis, alors c'est une question un peu bête que je vous pose, mais est-ce qu'un jour on pourrait y arriver, à votre avis? Vous dites que ça va très très vite. Le fait, je ne sais pas si vous voyez, enfin, vous suivez un peu l'actualité, il y a cette start-up qui s'appelle Figure.ai qui a montré un robot qui était connecté à ChatGPT et qui arrivait à comprendre en fait ce que disait l'humain qui était en face de lui. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est quand même assez impressionnant. Et on se rapproche quand même de ce robot qui comprend ce qu'on dit et qui exécute des tâches.
Alors, oui, il y a du progrès. Oui, il y a de nouvelles choses. Et peut-être que justement le problème de l'IA générative et de ChatGPT, c'est que le texte, le son, sont tellement bien analysés que ça vous donne l'impression d'être face à un humain.
Mais c'est une illusion, en fait, c'est ça ?
Alors, c'est pas une illusion, mais c'est pas un objet autonome qui décide, qui a une volonté propre, qui aurait envie de prendre des vacances, ou voilà. Vous avez l'illusion d'avoir un interlocuteur humain, ce qui trompe un peu. Alors, ça trompe, encore une fois, pour les gens qui sont un peu effrayés. Mmh. Et ça peut tromper aussi, parce que ce n'est pas une science exacte aujourd'hui. C'est-à-dire que ChatGPT, ça n'est pas un moteur de recherche dans une encyclopédie. Et donc, pour moi, le risque principal, c'est le mésusage de l'outil, au sens où vous pouvez être amené à être trompé par cette façade si séduisante et à prendre pour argent comptant le document, le texte qui va vous être proposé.
Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les hallucinations dans le monde de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Isabelle d'être passée par le plateau de Tech & Co. Rappelons que vous êtes directrice de l'Institut Prairie et que vous organisez avec évidemment un casting de choix. Toutes les stars de l'IA sont là demain et après-demain. Et bien des workshops et des tables rondes avec pour la journée du 4 avril un aspect plus grand public concernant l'IA avec France Digital. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ce Tech & Co, la quotidienne, est terminé. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée. On sera là demain pour un Tech & Co, la quotidienne exceptionnelle. On sera à la WS Summit porte-maillot pour parler évidemment cloud, intelligence artificielle et multitude de start-up et de belles boîtes tech que j'aurai le plaisir de recevoir. Donc demain, Tech & Co spécial. À demain.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.